CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city. Proudly student and listener-supported community radio.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Potpourri Show sur votre fréquence tout au long de l'année. La radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Djerba, une île tunisienne de 514 km² située sur le golfe de Gabès. Célèbre pour l'éclectisme de ses résidents et de ses touristes, ses magnifiques plages, ses musées, son art de rue, ses villages pittoresques et ses marchés pleins de couleurs et de saveurs. Tellement de choses à faire à Djerba que des hotspots vous en a sélectionné 10, vous permettront de découvrir les différentes facettes de l'île et faire en sorte que votre séjour de tourisme à Djerba soit un moment inoubliable.
Zid el shouaya, En direct de Djerba, et oui, dimanche 20 novembre 2022, la francophonie décomplexée. Du studio de CUTFM à la Radio Campus de l'Université de Toronto, l'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Kader avec vous depuis 35 ans. Émission réalisée en partenariat avec TV5 Monde, France 24, Radio France Internationale. Pour télécharger nos émissions, où que vous soyez dans le monde, popourishow.com. Oui, ça se fait, madame, monsieur, nous sommes au sommet international de la francophonie, le sommet de la francophonie, 18e édition, en direct de Djerba. Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une édition très spéciale dans le cadre de ce 18e sommet de la francophonie et le 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui a été, raté pendant 2 ans avec la pandémie. Et puis, nous célébrerons aussi le Forum économique de la francophonie en direct à Djerba. Oui, francophonie et économie, on en parle. Après 2 reports en raison de Covid-19 en 2020 et du coup de force du président tunisien Kais Saied à l'automne 2021, ce rendez-vous fait avec un peu de retard les 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie. Créée en 1970, qui réunit 88 membres et dont la Tunisie fut l'un des pays fondateurs sous la présidence de Habib Bourguiba. Djerba, l'île tunisienne située au cœur de la Méditerranée d'une superficie de 514 km², Djerba, l'île de rêve et joyeux de la Tunisie, l'une des destinations touristiques les plus prisées de la Tunisie. Et oui, elle est située au sud du pays dans le golfe de Gabès. L'île de Djerba a un charme auquel beaucoup de personnes ont succombé, y succombent encore aujourd'hui. En effet, Ulysse l'aurait traversé à l'époque et aurait failli interrompre son voyage tellement il était subjugué par son charme. Grâce à TV5 Monde, qui est sur place, on a pu voir l'arrivée des chefs d'État des pays membres hier samedi, Bongo Odimba, Kabame, Ouattara, les chefs d'État africains en force à Djerba, 88 pays membres et associés de l'organisation sont présents. Le Canada ne tire pas son épingle du jeu. Et oui, nous avons pu visiter virtuellement les kiosques du Canada, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario. En effet, l'Ontario est représenté par la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Madame Caroline Mulroney. Ce rendez-vous doit aussi se pencher sur l'importance de la connectivité et du numérique à l'heure où le monde est sous pression énergétique en raison de la guerre en Ukraine. Cette année, Popourri Show et CUTFM célèbrent le 35 ans. Ça fait du bien de se retrouver enfin en studio avec toute la belle équipe. Bonjour. Et nous avons un nouveau directeur, Monsieur Luc. Monsieur Luc, directeur, le nouveau directeur de CUTFM, il sera peut-être des nôtres tout à l'heure. Alors, merci du fond du cœur. Ah oui, il m'a donné beaucoup de cadeaux là pour les étudiants du CREFO de l'Université de Toronto, mais aussi les auditeurs qui ont fait des dons. J'ai des carnets de notes, voilà, qui est ici. Monsieur Luc Smith, il est là? Non, pas encore. Il est dans son bureau en train d'écouter la radio. Alors, merci du fond du cœur à tous les donatrices, donateurs qui nous ont aidés à atteindre notre objectif. Merci, merci mille fois pour vos gentils messages d'encouragement. Et dimanche prochain, je consacrerai une émission spéciale en guise de remerciement. Soyez-y. Une émission très chargée aujourd'hui et un peu bousculée à cause du décalage horaire. Djerba, nous avons plusieurs invités qui ont gentiment accepté de nous prêter leur voix. 5 à 10 minutes, s'il vous plaît. Oui, une façon pour nous aussi de leur rendre hommage, de vous présenter aussi cette vitalité de la francophonie de l'Ontario, encore méconnue en Europe et en Afrique. Aussi, pour vous dire, c'est un privilège d'avoir des partenaires qui contribuent financièrement, je dis bien financièrement, à notre émission depuis plusieurs années. Parler les thématiques de ce dimanche et les questions que je présenterai à mes invités, quels sont les grands enjeux de ce sommet? Des données du recensement 2021 de Statistique Canada révèlent que le français poursuit son déclin au Canada et partout, même au Québec, alors que le Canada prône une politique, je dirais, d'ouverture sur l'immigration. Y a-t-il des répercussions? Y a-t-il des attentes de la part des leaders de la communauté? On en parle. Des anecdotes entendues sur les trois campus universitaires de Toronto démontrent que les jeunes francophones sont indifférents au sort du français. Y a-t-il une solution miracle? Ah, voilà la grande question. Et puis le Canada ouvre plus que jamais ses portes à l'immigration. Le gouvernement Trudeau, comme vous le savez, vient d'annoncer une nouvelle politique. Il veut accueillir quoi, 500 000 nouveaux arrivants. Mais le hic, 75% de Canadiens s'y opposent. Et les francophones hors Québec aussi ne sont pas très contents, mais pas pour les mêmes raisons. Micro-trottoir à Tunis, comment se porte la langue française en Tunisie? Eh oui, nos amis de France 24 sont sur place. La France est-elle toujours le garant de la langue française? Et puis pas grand monde, y compris dans les milieux universitaires, nos étudiants sont au courant de la tenue de ce sommet de la francophonie à Djerba. Et notre amie et collègue Linda Giguère, journaliste animatrice d'une chronique sur la francophonie chaque jour sur TV5 Monde, nous livrera sa version sur l'évolution de la francophonie. Vous êtes cordialement invité, madame, monsieur, à y participer en répondant à la question suivante. Quel est votre mot préféré de la langue française? C'est la même question que je poserai à chaque invité. Quel est votre mot ou l'expression préférée de la langue française? Nous attendons vos messages ou commentaires à popourri@cut.fm. Nous sommes très très heureux d'accueillir des invités exceptionnels, des hommes, des femmes et des jeunes issus de la francophonie plurielle de l'Ontario et du monde. Tout d'abord, nous avons à Toronto Dr Emmanuelle Le Pichon-Wortzmann, directrice du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, auteur de plusieurs livres sur le plurilinguisme et la place des langues dans le système scolaire. Elle fait des choses extraordinaires, on en parle, elle sera des nôtres. Bonjour professeur, le CREFO, je vous rappelle, est membre partenaire de la radio. Madame Fete Kim Biopi est originaire de la République démocratique du Congo, auteur de Dias, thérapeute et homme léopard, directrice de Solidarité des femmes immigrantes francophones du Niagara, le Sophie Franc. Sophie Franc fête ses 15 ans, je vous rappelle, cette année, et cet organisme est membre partenaire à part entière de la radio depuis quelque temps. Et dans la deuxième heure, Carole Fleuret, auteur, professeur, titulaire à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Elle écrit et coécrit plusieurs ouvrages que je vous conseille, entre autres Langue et enjeux interculturels, une exploration au cœur d'un programme d'appui à l'apprentissage du français de scolarisation pour les nouveaux arrivants, didactique du français en contexte minoritaire entre normes scolaires et plurilinguisme. Un nouveau acteur sur la scène provinciale, Monsieur Fabien Hébert, nouveau président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, de la FO, encore méconnu malheureusement de la part de nos auditeurs, mais aussi de la francophonie en général. Il est de Hearst, petite ville méconnue, à majorité francophone, située dans le nord de l'Ontario, au Canada. Et enfin, pour clore cette émission en beauté, Elisabeth Drapeau, fondatrice et directrice de Tolalito Music, une femme extraordinaire qui fait des choses très très belles, vous allez voir. Elle est donc la fondatrice de cette agence d'artistes spécialisée en musique afro-urbaine et caribéenne à Montréal et dans le monde. Tolalito Music est partenaire de Popourri Show et je pense qu'ils sont peut-être quelque part cachés dans un hôtel à Toronto. Et maintenant, je vous invite, madame, monsieur, à me suivre dans les coulisses de Radio de France 24. Et oui, à Djerba, il fait 24 degrés en ce moment. Quelles sont les attentes de ce sommet un peu terni par la crise en Tunisie? Place aux journalistes de France 24 et une correspondante d'Ottawa. Édition spéciale, sommet de la francophonie à Djerba sur CUT 89,5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Bonjour et merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de Demain à la Une pour comprendre les enjeux du sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie. Une rencontre qui marque le cinquantenaire de l'OIF, anniversaire deux fois reporté en raison de la pandémie de Covid. Mais derrière la photo de famille, il y a des tensions en coulisses. Ces 50 bougies vont-elles être l'occasion d'un nouveau souffle? Pour en parler avec nous en plateau, Taoufik Mjayed, vedette de la
bien
chaîne
prononcé
arabophone de France 24, et Joanne Profeta en direct de Ottawa au Canada avec nous et qui est notre correspondante. Alors, quelle est l'influence de l'OIF aujourd'hui? Quel est son avenir? Il faut savoir que le français est la langue officielle de 21 pays d'Afrique et en 2050, 90% de la jeunesse francophone sera africaine. Taoufik, avant d'aborder les questions qui fâchent, vous qui avez couvert plusieurs sommets, 6 vous m'avez dit, sommet de la francophonie. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut attendre de cette rencontre?
Qu'est-ce qu'on attend? C'est une occasion de se rencontrer. C'est plutôt les rencontres en coulisses. Il n'y a aucune mesure contraignante qui sort de ces sommets. Mais il y a toujours des pays qui demandent à adhérer à l'OIF. Donc, c'est le Qatar, par exemple, l'Arabie Saoudite, qui est aussi, qui fait partie aussi des pays qui sont encore candidats. Il y a des pays d'Amérique latine. Donc, ce n'est plus la francophonie. C'est pas la langue française en partage, mais il y a des pays d'Amérique latine qui sont maintenant membres associés ou membres observateurs ou membres à part entière. Donc, qu'est-ce qu'on entend? On attend beaucoup des forums économiques et du village de la francophonie. Le village de la francophonie s'installe une semaine avant l'arrivée des chefs d'État, où il y a des rencontres des ONG, où il y a une certaine multitude de rencontres qui peuvent aboutir à des partenariats, etc. Et il y a aussi la rencontre économique où on voit aussi des hommes d'affaires qui se parlent entre eux. Et on peut aussi conclure, il y a aussi des aides, et la dernière fois que j'ai vu des aides, j'ai vu une cinquantaine d'ambulances offertes par le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, à Madagascar.
Mmh. Alors le Canada, on parlait justement, Joanne Profeta, le Canada n'était pas véritablement favorable à ce sommet, en tout cas il était pour le report de ce sommet. Pourquoi finalement il y participe?
Oui, donc le Canada était favorable au report de sommet. C'est une information qui a été révélée par l'hebdomadaire québécois La Presse en août dernier. Donc le premier ministre Justin Trudeau a apparemment fait discrètement campagne auprès du président Emmanuel Macron pendant le sommet du G7 en juin dernier pour reporter à nouveau le sommet de la francophonie en raison de la situation politique jugée préoccupante en Tunisie. Donc la ministre des Affaires étrangères canadiennes, Mélanie Joly, s'est même entretenue cet été avec son homologue tunisien. Elle a rappelé avec lui l'importance, je cite, du respect des principes démocratiques. Mais au final, il n'y a pas eu d'action concertée avec la France pour boycotter le sommet. Donc le Canada y participe. Cela a été annoncé tardivement au début du mois de novembre. C'est une manière de rester présent en Afrique et au sein de la France. Et au sein de la francophonie, peut-être pour essayer de faire changer les choses de l'intérieur plutôt que de l'extérieur.
Allez-y, continuez.
À un niveau plus national, cette question est importante parce que le Canada est un pays bilingue. Suite au décès de la reine Elisabeth II, il a rappelé son attachement en Commonwealth. Donc en allant en Tunisie, le gouvernement montre qu'il participe aussi à la francophonie internationale, participe aux deux cultures.
Et si on s'intéresse à la langue française en tant que telle, plusieurs rapports montrent qu'elle est en recul par rapport à l'anglais, en tout cas que l'anglais de plus en plus s'impose. On a parlé récemment de l'anglais qui s'impose même sur les billets de banque en Algérie. Qu'en est-il en Tunisie?
Exactement, ça c'est une bonne question. Sur les candidats au bac 2022, il y a eu 135 000 candidats. 7 500 candidats ont eu 0 sur 20 en langue française, qui ne s'est jamais vu auparavant. Donc la langue française était enseignée dès l'école primaire, depuis l'arrivée, à la fin de l'arrivée de l'époque de Ben Ali, parce qu'il y avait des bisbilles entre lui et Mitterrand concernant les droits de l'homme, et il a décidé donc d'arabiser. L'arabisation a fait que la langue française a beaucoup reculé par rapport aux années 70, aux années 80 et début des années 90. Donc la langue française, il y a beaucoup de francophones, beaucoup de francophiles en Tunisie, mais c'est la langue arabe qui a pris le dessus. Et effectivement, il y a beaucoup de jeunes maintenant
qui préfèrent la langue anglaise.
Pour des questions aussi d'emploi, notamment. Alors, Joanne Profeta, on sait que au Canada, au Québec en particulier, la langue française est très défendue. Mais quel est l'état réel de la situation ? C'est quoi ?
La question de la francophonie et surtout la question de la place du français au Canada sont des thématiques qui sont récurrentes dans l'actualité du pays. Quelques exemples, en juin dernier, le Québec a réformé sa charte québécoise de la langue française pour renforcer la présence du français dans les entreprises ou encore dans les écoles anglophones au Québec. Et il y a eu plusieurs manifestations contre cette loi. Le reste du Canada a émis beaucoup de réserves. Même le premier ministre Justin Trudeau s'était dit préoccupé. Donc régulièrement dans l'actualité, le visage de la francophonie au Canada est rediscuté, débattu. Cet été, il y a eu une étude de Statistique Canada qui a beaucoup fait réagir, car on apprenait que de moins en moins de Canadiens avaient pour première langue officielle parlée le français, et c'est une tendance qui n'est pas nouvelle et qui s'accentue. L'année dernière encore, il y a le directeur général d'Air Canada qui avait déclaré qu'il était capable de travailler à Montréal pendant 14 ans sans parler français. Cette déclaration avait été très très mal accueillie. Ce sont des exemples de questionnements en fait autour de la francophonie et surtout autour de la peur d'un déclin du français au Canada qui sont des sujets régulièrement abordés au Québec, mais aussi au sein des minorités francophones du reste du pays. Au niveau mondial, le rôle du Canada dans la francophonie, eh bien, selon plusieurs politologues canadiens, ce rôle-là, il est un peu à l'image du Canada dans la scène internationale, c'est-à-dire un peu à la marge. Toujours selon les spécialistes, le Canada, il agit un peu comme un contrepoids à l'omniprésence française. Mais pour la francophonie, avoir le Canada, c'est-à-dire une présence nord-américaine, c'est une bonne chose. Ça contribue à une vision internationale, en fait, de l'organisation internationale de la francophonie.
Joanne Profeta, merci beaucoup pour ces éclairages en direct d'Ottawa. Merci beaucoup au Taoufik également. Alors, on va vous suivre, évidemment, sur la chaîne arabophone de France 24 lors de ce sommet. Marc Perelman vous accompagne pour le français. Vous allez faire pas mal d'entretiens, je crois.
C'est prévu.
Bon, ben on va suivre ça de près. Donc, votre sixième sommet de la francophonie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis depuis Conakry, Bruxelles ou encore Montréal. Restez sur notre antenne. L'info continue.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Potpourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter? Or marmalade.
Help us reach our $100,000 goal by donating today at www.ciut.fm. Click the donate button and support the sound of your city.
France 24 vous propose les observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifié par les journalistes de France 24 et publié sur notre site. Les observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les observateurs, ce sont eux, c'est lui, c'est elle. Et pourquoi pas vous? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde.
Et du 14 au 20 novembre, je vous lance personnellement un appel pour un coup de pouce lors de la campagne de levée de fonds automnale. deux fois par an, CUTFM fait appel à votre générosité afin de garder la seule émission en langue française sur les ondes de CUTFM. Cela fait 35 ans qu'une équipe de bénévoles se lève chaque dimanche pour vous présenter cette émission reflétant la diversité de la francophonie. 35 ans, beau temps, mauvais temps, Covid ou pas, nous tentons à notre mieux de vous présenter des émissions inédites que vous entendrez nulle part ailleurs. Et si vous aimez nos émissions et notre engagement à la francophonie depuis 35 ans, je vous invite, madame, monsieur, à faire un don en ligne, quel que soit le montant, sur www.cut.fm et en toute sécurité, cliquez sur le bouton Donate ou par la poste si vous préférez. Et surtout, n'oubliez pas d'indiquer votre émission favorite, Popourri Show. Quoi de neuf? Les Cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à des cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les Cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant. Et oui, il sera à Toronto le 29 novembre. Bravo, félicitations à tous les gagnants. Mais qui est-il ? Stromae, Toronto, bienvenue chez nous.
Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf dit étude, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Proche de l'Italie, car les problèmes viennent tout seuls. Qui dit crise de l'immonde, dit famine et dit tiers-monde. Qui dit fatigue, dit réveil. Allons ça, faut oublier tous les problèmes, alors on danse.
Alors on danse. Est-ce que vous dansez là-bas chez vous? Vive la francophonie!
Alors on danse, alors on danse. Édition spéciale, 18e sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie et 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes 321 millions de francophones dans le monde et en 2050, nous serons entre 700 et 800 millions. Pourquoi la langue française perd du terrain partout au Canada? Et j'ai le plaisir d'accueillir, madame, monsieur, notre premier invité et partenaire de cette émission, professeur Emmanuelle Lepichon-Wortzmann. Elle est directrice du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire de renommée internationale où on étudie les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Le CREFO organise aussi des conférences en présentiel et en ligne. Le centre produit des podcasts Quoi de neuf à les Cafés du CREFO. Et professeur Lepichon-Wortzmann a dirigé plusieurs projets nationaux et internationaux sur l'inclusion des élèves issus des minorités dans l'éducation en tant que consultante, chercheuse, évaluatrice et examinatrice pour plusieurs organisations et revues internationales. Et je vous rappelle que le CREFO est un des partenaires piliers de cette émission.
De l'île paradisiaque de Djerba à la ville de Toronto, professeur Emmanuel Pichon-Wortmann, merci d'être des nôtres. Enfin, après ce long silence radio dû à la pandémie, comment allez-vous, professeur?
Très bien, merci, et très heureuse d'être avec vous en direct ce matin.
Oui, juste quelques secondes avant d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que cette pandémie a changé ou bousculé un peu vos habitudes, que ce soit dans votre profession ou les activités, les cours au CREFO?
Oh oui, c'est évident. Oui, c'est évident. Il a fallu repenser. Alors, au CREFO, on donnait déjà beaucoup nos cours en hybride, c'est-à-dire à la fois en ligne et en présentiel. Mais là, il a fallu qu'on repense notamment les conférences qu'on a toutes tenues en ligne. Mais ça a aussi été l'occasion pour nous de développer les podcasts, les balados dont vous avez parlé juste avant. Et qui, en fait, ont été un formidable développement pour nous parce qu'elles nous ont permis de diffuser ce que nous faisions au niveau de la recherche et les liens avec la communauté. Bien au-delà, non seulement des frontières de Toronto, mais de la province et même du Canada. Maintenant, on a des gens qui nous écoutent dans le monde entier et on leur est extrêmement reconnaissant.
Donc
il n'y a pas eu que des conséquences négatives pour nous, de très belles aussi conséquences qui nous ont forcés à repenser notre lien à la francophonie et à la diffusion des connaissances.
Et vous savez, une des thématiques de ce sommet, c'est connectivité numérique. C'est peut-être même l'avenir de la langue française si on veut élargir notre bassin de population, notre auditoire.
Alors, oui et non. Donc, l'avenir de la langue française, c'est vous et moi. Ce sont tous ceux qui aiment cette langue, qui souhaitent la diffuser. Mais par quel moyen? Oui, c'est un moyen essentiel qu'il faut absolument exploiter. Et je pense que ce dont nous nous sommes rendus compte au moment de la pandémie, c'est qu'en fait, les technologies existaient déjà depuis 20 ans, 25 ans, et que nous en faisions très, très peu, les avions finalement très peu, trop peu exploitées, pour lesquelles on aurait pu les exploiter. Donc, oui, une formidable occasion.
Mais nous célébrons la langue française dans toute sa diversité ce week-end à Djerba en Tunisie. Vous êtes déjà allé? Vous connaissez l'île de Djerba?
Alors, je ne suis pas allée à Djerba en Tunisie. En revanche, j'étais au Maroc en mai dernier et j'ai découvert l'amour pour la langue française des gens qui la chérissent et qui l'aiment et qui la voient comme vraiment l'une de leurs perles.
Ouais, alors
ça m'a beaucoup, beaucoup touché.
Ouais, alors, je constate qu'il y a très peu d'événements sur notre territoire, à l'Ontario, sur nos campus. Il y a, comme certains me disent, un manque d'engagement chez beaucoup de nos amis, nos collègues, les étudiants francophones sur nos campus. Certains me chuchotent en toute confidentialité et je cite... Ah, tu sais, la francophonie, c'est kaput. On voit la façon dont on nous traite au Nouveau-Brunswick. Ces jours-ci, on les accueille des franco-ontariens toujours aussi fragiles. La piètre qualité des services en français en Ontario. D'ailleurs, on note une hausse de 15% des plaintes sur les services en français entre avril 2021 et mars 2022. J'étais à Rennes au mois d'août dernier quand j'ai appris le fameux rapport accablant de Statistique Canada, le fait que la langue française recule partout dans notre pays. Vous êtes né vous-même à Brest, en Bretagne, mon pays d'adoption. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un important centre de recherche en éducation en Ontario, au Canada. Comment voyez-vous l'avenir du français en Ontario et au Canada rapidement?
Écoutez, je ne pense qu'on n'a jamais réussi à motiver personne à faire quoi que ce soit en leur disant que leur situation était très mauvaise et qu'ils allaient mourir. Je pense que ça, c'est la meilleure arme pour achever quel que soit votre projet. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est de célébrer la francophonie, faire l'inverse, c'est-à-dire de se retrouver ensemble pour célébrer toutes les choses extraordinaires qui sont faites dans la francophonie, en Ontario, dans nos universités, dans la communauté. Et il y a vraiment... Alors, évidemment, vous parliez des services en français, ça c'est extrêmement triste. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais je pense que d'un point de vue de l'activité des francophones, il y a énormément de choses qui se passent. Mais... Par exemple, nous avons créé très récemment l'antenne de l'ACFAS Toronto. Et l'ACFAS, vous savez, c'est l'organisme de diffusion de la recherche en français au Canada et au-delà. Et cet organisme est extrêmement dynamique. Et d'ailleurs, nous avons un certain nombre d'événements qui arrivent, là, comme la thèse en 180 secondes, qui est la version francophone du même exercice qui existait déjà et qui donc aura lieu, la finale aura lieu à Toronto cette année, à l'hiver 2023. Donc c'est un très bel événement qui va permettre de rejoindre la communauté, mais aussi le jury, les scientifiques, etc. Il y a aussi le centenaire de l'ASPAS qui va se tenir fin janvier à Toronto. On aura une semaine pour nous, avec de beaux événements qui se préparent. Donc il y a vraiment de très 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 belles choses qui se préparent, et je pense qu'il est très important de savoir célébrer ce qui se fait pour pouvoir grandir à partir de là, plutôt que de s'accabler sur un événement. Enfin, quand on en parle comme ça, on a l'impression de quelque chose d'irréversible. Et moi, étant linguiste, je sais très bien que rien n'est irréversible, surtout au niveau des langues. Les langues, elles sont dynamiques, elles ont des périodes de creux, mais elles peuvent aussi être ravivées et même renaître de leurs cendres, comme il en a été question, par exemple, pour l'hébreu.
Notre invité aujourd'hui, professeur Emmanuel Pichon-Wortmann, directrice du CREFO, Université de Toronto. Mais oui, comment pouvons-nous peut-être travailler ensemble avec tous les vecteurs, les organismes, les groupes communautaires pour propager ce que vous faites à l'Université de Toronto? Parce que souvent, on nous critique, hein, y compris notre émission, on dit « Ah, vous êtes un petit cercle privé avec des intellectuels de l'Université de Toronto, on ne comprend pas. » Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour familiariser, si vous voulez, notre langage et propager vos projets? Parce que ce sont des projets très intéressants, hein. Il y a aussi beaucoup d'auteurs francophones qui font des choses formidables, mais ils sont toujours méconnus et il y a tellement d'obstacles avant qu'ils arrivent à se faire connaître sur la scène ontarienne.
Alors vous avez probablement raison. Cela dit, je pense qu'il y a des partenaires qui font un travail de diffusion extraordinaire. Je pense notamment à l'Alliance française, mais il y a d'autres, de liens entre les scientifiques et la communauté. Nous, au CREFO, nous travaillons beaucoup en ce sens. Vous savez que notre motto, ce sont vraiment, depuis des travaux formidables de notre collègue, la professeure Diane Farmer, sur l'inclusion et l'équité dans les écoles de l'Ontario. Maintenant, on va bien au-delà. Donc, on est constamment en dialogue avec la communauté, mais aussi avec les politiques. Je pense à ma collègue, la professeure Marie-Paul Lory, qui travaille sur les ressources et la francophonie avec beaucoup de conseils scolaires de l'Ontario. Je pense à ma collègue professeure Laura Bisaillon, qui est sociologue politique et qui vient de sortir un livre assez important dans lequel elle parle du programme médical du système d'immigration canadien, et en particulier de ses pratiques relatives au sida. Voilà, donc il y a énormément de travail qui touche vraiment à la communauté. Alors si j'évoque mon propre travail, moi je travaille beaucoup sur l'idée d'une école qui serait amie des langues, donc pareil, équitable, inclusive, ou bien encore sur l'enseignement des sciences aux élèves qui nous arrivent de l'international. Alors je voudrais revenir sur le continent africain, parce que je pense que c'est tout à fait symbolique que cet événement se tienne aujourd'hui à Djerba, sur un continent qui est quand même très important pour la francophonie aujourd'hui, et qui nous pose encore, ici en Ontario et au Canada, la question de l'inclusion. Dans quelle mesure est-ce que nous sommes capables de faire de cette communauté francophone au Canada une communauté vivante et qui célèbre sa francophonie? C'est, je pense, la question essentielle des années à venir.
Oui, et je rappelle aux gens, vous avez mentionné professeur Laura Bisaillon, je rappelle aux gens le lancement de son livre « Screening Out, HIV Testing and the Canadian Immigration Experience ». C'est prévu pour le mercredi 30 novembre, de 16h à 17h30, en présentiel au Nexus Lounge, deuxième étage, Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, Université de Toronto, ou sur Zoom. Le lien sera fourni aux personnes inscrites. Vous retrouverez tout ça sur notre site popourishow.com. Donc, mercredi 30 novembre, de 16h à 17h30. Voilà, le message est passé. Voilà, ça, vous faites aussi beaucoup de conférences comme ça, hein, d'envergure, en partenariat avec l'Université Laval et d'autres universités. Je trouve ça formidable. Mais encore une fois, il faut que les gens se déplacent et il faut que les gens vous suivent.
Beaucoup, beaucoup. Et puis, je voudrais quand même dire que le Canada francophone continue de rayonner à travers le monde, en particulier en matière d'éducation. Mmh. Les pays du monde entier regardent vers le Canada. Donc, nous avons une responsabilité qui est celle de montrer l'exemple. Oui.
Alors, dans le cadre de nos 35 ans, nous avons reçu plusieurs messages et des témoignages fort poignants de la part de beaucoup d'auditeurs. Vous savez, professeur, on n'a aucune idée qui nous écoute et quel effet ça fait sur les gens et la vie même des gens. C'est incroyable. Hein? Alors, et je remercie aussi votre organisme, le CREFO, la direction de RFI, qui était d'ailleurs dans nos locaux pas tellement longtemps. Ils ont trouvé ça formidable. On a visité votre site et on a parlé des campus, comment peut-être faire évoluer nos relations. Ils veulent peut-être copier un peu le modèle de notre radio dans d'autres campus universitaires aux États-Unis. On a découvert qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'attellent à la langue française aux États-Unis. Incroyable.
Mais c'est voilà, vrai. voilà. Exactement. Ouvrir nos antennes, voilà. Ouvrir nos radios aux jeunes qui sont l'avenir de la communauté.
Oui. Alors, il faut dire aussi qu'à l'Université de Toronto, nous avons cette passion, l'amour de la musique, mais aussi des cultures et de la langue ou des langues. Et donc, il y a la diversité prime beaucoup sur nos campus, parce qu'il y en a trois, n'est-ce pas? Le côté créatif et avant-gardiste, et je pense c'est ce qu'on retrouve dans nos émissions, c'est ce que les gens nous disent. Êtes-vous d'accord ou pas? Parce que vous nous suivez depuis quelque temps. Comment voyez-vous votre émission?
Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que votre émission fait un travail extraordinaire de rassemblement, d'ouverture et de célébration de la diversité. Et nous vous en sommes extrêmement reconnaissant au CREFO. Merci de faire ce travail et je souhaite que vous continuiez votre expansion. Je suis vraiment ravie d'entendre que on vous appelle pour copier le modèle. Je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse vous faire.
Ah, il y a un message d'un auditeur qui nous écoute en ligne au Cameroun, professeur. Il dit, je cite, nous avons l'espace linguistique le plus en croissance dans le monde et ça principalement grâce à l'Afrique francophone. Prenons soin de notre langue commune car elle est précieuse. Votre réaction?
Oui, merci. C'est une très belle remarque. Et ce professeur a tout à fait raison. Je pense qu'il... Mais nous avons un travail énorme à faire nous-mêmes, sur nous-mêmes et dans la communauté, sur les préjugés que nous pourrions avoir sur les différentes francophonies et que nous devons nous retrouver pour célébrer ensemble ce qui nous unit.
Voilà. En deux secondes, votre mot ou expression en français préférée?
Mon expression... Alors là, vous me posez une colle.
Mais votre mot préféré en français?
Mon mot préféré en français? Ah, peut-être... vous me posez une colle.
Alors...
peut-être celui qui sonne le mieux, papillon.
Papillon. Ah oui, c'est joli ça. Papillon. Ah oui, il y a un restaurant d'ailleurs qui s'appelle le Papillon à Toronto. Professeur Emmanuel Pichon-Wortmann, directrice du CREFO de l'Université de Toronto. Elle est auteure de plusieurs recherches, documents, de livres fort intéressants dont je vous recommande. On en trouve des titres comme Migration et médiation des langues et des hommes. Quel rôle pour la didactique des langues, le plurilinguisme et la place des langues dans nos systèmes scolaires. Et au mois de mars d'ailleurs, vous avez animé une conférence en ligne ayant pour thème « Éducation et multilinguisme, sortir de l'impasse par la connaissance réciproque ». Je trouve ce titre formidable. Une conférence en partenariat avec l'Université Laval, Québec. Et vous retrouverez les liens du CREFO sur notre site, madame, monsieur, popourichaud.com. Alors je me permets de vous lancer peut-être une invitation officielle en tant que co-animatrice lors de nos émissions spéciales du mois de la francophonie au mois de mars 2023. Donc, vous avez encore un peu de temps pour y réagir.
Oui, si vous me permettez, je voudrais aussi mentionner le dernier livre que j'ai écrit en français qui s'appelle « Défis et richesses des classes multilingues » avec ma collègue Nathalie Auger, qui est vraiment une ressource qui pourrait être très utile, notamment dans les écoles, construire des ponts entre les cultures, et c'est vraiment ce dont nous parlons aujourd'hui.
On l'a déjà interviewée, elle est à Paris, je pense. Hein.
Elle est à Montpellier.
À Montpellier, voilà, on l'a déjà interviewée. Alors, ce serait bien si on pourrait mobiliser nos équipes sur les trois campus. Il faudrait peut-être aussi impliquer les étudiants francophones dans nos départements de français. Alors, les gens ne réalisent pas, hein, il y a trois départements de français à Toronto, n'est-ce pas, de l'Université de Toronto.
Tout à fait. Et l'Université de l'Ontario français aussi.
Oui, en effet. Alors, on pourra en parler. Merci. Alors, donc, vous saluerez, vous savez, le premier collègue qui a démarré ce partenariat avec la radio, c'est Normand, professeur Normand Labry. Vous lui saluerez bien de ma part, chaleureusement de ma part, parce qu'il est quand même un être spécial.
Un pilier du CREFO, un pilier de la francophonie au Canada et en Ontario en particulier, et surtout un grand
ami. Oui, alors, professeur Emmanuelle Puchon-Vorsman, directrice du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, merci infiniment et que la force soit avec vous. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Organisé par le peuple, pour le peuple, CUT 89,5 FM et le son de votre ville. Montrez votre soutien en faisant un don en ligne sur CUT.fm. Afin de nous garder sur les ondes.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Show your support by donating online at ciut.fm.
Bonjour, ici Peter Biraud, correspondant spécial Potpourri Show. CIUT FM and Potpourri Show offer the kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time, not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Potpourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT FM.
10 jours de festivité, de convivialité en effet, mais aussi de découverte du patrimoine culturel, traditionnel de tous les pays qui font partie de cette grande famille qu'est la francophonie. Un volet bien entendu éminemment économique aussi à travers le numérique. Que peut la connectivité en termes économiques et de solidarité? On découvrira aussi, on va se faire plaisir, la gastronomie de tous ces pays. On voit ici le stand de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la République démocratique du Congo, la France. Il y a également le Canada qui est autour de moi, le Québec dans les allées ici du Salon de la Francophonie, les Émirats Arabes Unis également. Et puis le pavillon de la Roumanie qui célébrera l'an prochain son 30e anniversaire d'adhésion à la francophonie. À mes côtés, le secrétaire d'État rattaché au ministère de la Culture de Roumanie. Bonjour Andrés Demeter. On a le pavillon ici, donc on voit que voilà, tout se prépare doucement. Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir au cours de ces 10 jours de festivités?
Voilà, la collectivité avec l'économie et l'industrie et la technologie, je pense que c'est important de souligner qu'il est basé à la richesse de la tradition. Ouais. Donc c'est ça que nous avons décidé de montrer les 6 régions roumaines.
Alors vous êtes à côté du stand du Cameroun, est-ce que c'est l'occasion aussi de découvrir le patrimoine aussi d'autres pays francophones, notamment d'Afrique de l'Ouest?
De faire la connexion et après de rester interconnecté.
Ouais, en contact.
En contact.
Merci beaucoup. Merci. D'avoir répondu à nos questions. Vous le voyez donc, c'est vraiment toute la grande famille francophone qui est réunie. La semaine prochaine, donc le 19 et le 20 novembre, ce sera le sommet de la francophonie, le 18e du nom. On rappelle que la secrétaire de la francophonie, Louise Mouichi-Kiwabo, brigue un nouveau mandat. Voilà, ici Djerba, à vous Paris.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Kader. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM. Chaque dimanche, de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne de la Faculté d'Éducation de l'Université de Toronto, le Département d'études langagières campus de Mississauga, la Chaire de Recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, Education Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Bonsoir Marie-Ange.
Bonsoir,
je vous déloge.
Vous avez raison, prenez la place.
Bonsoir. Je vous entends parler francophonie là depuis tout à l'heure. Quel beau mot, francophonie. Hein. Ça y est, donc c'est ce week-end, samedi et dimanche, que les dirigeants des États membres de la francophonie vont enfin pouvoir se serrer la pince avec ou sans masque pour leur 18e sommet reporté. Alors vous savez, moi, ce genre d'événement, bon, ça m'intéresse pas trop l'aspect institutionnel. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la langue française. Comment elle se porte, comment elle évolue, comment elle est réactive par rapport à l'actualité. Souvenons-nous de l'avalanche de mots produits par la pandémie. Présentiel, confinement, quatorzaine.
Vous nous en avez parlé, hein.
Oh, et on en a détourné le sens de certains mots. On a inventé des mots. On les a totalement intégrés à notre pratique quotidienne du français. C'est génial. Qui a dit que le français se portait mal, Marianne?
C'est vivant, hein.
C'est pas vous. Et puis, il y a un autre phénomène que je trouve particulièrement réjouissant. C'est que d'un bout à l'autre de la francophonie, désormais, grâce à Internet, on peut mettre en commun, on peut partager nos particularités linguistiques régionales. À Paris, dans beaucoup de capitales francophones maintenant, on s'enjaille, on s'ambiance, on se kiffe, mais on ne divulgage pas un film. Et c'est pas tout, parce qu'en plus, en termes de chiffres, eh ben, le nombre de locuteurs en français progresse. Vous allez me dire, c'est normal, vu l'explosion démographique. Tiens, ça me rappelle un vieux tube des années 80.
Il y a 3 milliards d'humains sur Terre, et combien de cœurs solitaires. Pourquoi nous devons, pourquoi nous
Vous vous souvenez, Marianne?
Non, mais je le reconnais, Fabien Thibault, Richard Cochante.
1985.
Quand j'étais un bébé.
Alors, on n'est plus... on n'est plus 3 milliards, mais 8 milliards d'êtres humains, comme vous nous l'avez appris cette semaine. Et parmi eux, ben, les francophones aussi sont plus nombreux, notamment en Afrique. Ce qui fait que nous ne sommes plus 300 millions de francophones sur Terre, mais 321 millions. Le Figaro écrivait d'ailleurs récemment que la langue française n'appartient plus aux Français de France, mais aux francophones, qui, j'ajoute, l'enrichissent, la chatouillent, la désorientent, la scandalisent aussi parfois, bref, la rendent vivante. Évidemment, tout n'est pas parfait. Dans les instances internationales, l'Union européenne, par exemple, on ne parle pratiquement plus français. À Djerba, la secrétaire générale de l'OIF devrait appeler les États francophones à redoubler d'efforts pour que le français continue d'occuper sa place. D'autres esprits plus radicaux suggèrent d'organiser un sommet extraordinaire de refondation de la francophonie. On met tout à plat, on fait le bilan, on fait le ménage, mais ça, c'est un autre sujet.
Merci Linda, on vous retrouve la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
Avec plaisir également.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourrichaud.com. Où que vous soyez,
Si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
Eh oui, Sophie Franc, dans un instant, immigration francophone à les défis de l'heure. Le gouvernement canadien ouvre ses portes à 500 000 immigrants. Eh oui, cette idée ne plaît pas à tout le monde. Plus de 75% de Canadiens. Qu'en pense notre prochain invité? On en parle brièvement avec une personnalité, une militante des droits des immigrants, des femmes immigrantes. Elle est très très engagée dans la francophonie plurielle du Niagara et de Wallen. C'est une éminence grise de la francophonie ontarienne. Certains l'appellent Mama Fété. Et oui, elle est originaire de la République démocratique du Congo, auteur de romans, notamment Niota, le secret de la plume, Dias, thérapeute et homme léopard. Elle est directrice de solidarité des femmes immigrantes francophones du Niagara, Sophie Franc, qui fête ses 15 ans. Sophie Franc, un organisme partenaire de la radio. Édition spéciale, 18e édition du sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie, en partenariat avec France 24, TV5 Monde, Radio France Internationale. Un sommet de la francophonie sous tension, des dossiers chauds, des sujets qui fâchent, droits de la personne dans les zones de conflit. Le Premier ministre François Legault et Justin Trudeau en tête à tête hier, le numérique et l'économie au cœur des débats. C'est aussi la clôture de notre campagne de collecte de fonds. Nous en sommes près de 66 000 dollars, madame, monsieur. Merci mille fois. Merci du fond du cœur à ceux et celles qui ont contribué généreusement. De Toronto, Montréal, de Terrebonne, du Québec, de la ville de Québec. Et oui, des dons qui sont très, très appréciés. Mille merci. Merci en pile. Et nous avons le plaisir, madame, monsieur, d'accueillir cette éminence grise, madame Fété Kimbiopi. Joyeux anniversaire, Sophie Franc, madame Fété Kimbiopi.
Bonjour, Eric, et merci beaucoup pour les souhaits, merci pour l'invitation.
C'est tout un exploit, surtout quand on connaît votre parcours, vos luttes. Et tous les défis que vous avez dû surmonter de la belle province du Québec en arrivant à Toronto, en Ontario plutôt aujourd'hui, vous êtes une battante. Merci pour tout ce que vous faites pour les communautés immigrantes, votre dévouement, votre contribution auprès des communautés noires, des femmes immigrantes. Alors, il fait très chaud à Djerba. J'espère que chez vous, Dame Nature vous a épargné de cette terrible tempête de neige qui a fait pas mal de dégâts à New York hier. Vous avez vu ça?
Oui, absolument. Non, nous avons eu aussi notre lot, notre tempête aussi, mais disons que c'était beaucoup plus calme par ici.
Oui.
Mais oui, on l'a eu.
Alors, pour notre part, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nos invités parce que ça fait plus de 2 ans qu'on a quitté nos studios à cause de la pandémie. Donc, nous sommes très heureux d'être de retour au Bercail. Ça fait bizarre d'ailleurs de faire des émissions en direct maintenant. Est-ce que vous, la pandémie a eu un impact négatif ou vous a forcé de travailler autrement?
Ben oui, c'est-à-dire qu'on a dû suivre d'abord les instructions. Lorsqu'on a demandé à toute la population de rester confinée, nous avons suivi donc les ordres donnés par Santé Canada. Puis par la suite, quand ça s'est relaxé, nous sommes retournés dans nos bureaux avec beaucoup de précautions. Évidemment, il fallait absolument observer toutes les mesures de distanciation sociale, mais en même temps, on ne pouvait pas faire autrement parce qu'il y avait ces familles démunies qui avaient besoin de recevoir de l'attention, de recevoir des bons alimentaires. Il y a eu beaucoup de situations comme ça. Il y a eu des cas de violence aussi dans les foyers.
Ah oui.
Il fallait intervenir. Donc, on pouvait pas le faire tout le temps à distance. Pour certains cas, on devait le faire en présentiel, mais en prenant évidemment toutes les mesures quand même pour ne pas s'exposer inutilement. Donc, ce qui fait qu'on a continué à fonctionner évidemment à pavillon réduit, comme qui dirait, mais quand même, on était en contact avec des personnes qui étaient dans des cas souvent sévères. On ne pouvait pas faire autrement parce que c'était des cas assez désespérés.
Alors l'Afrique est très présente au sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie. Les kiosques du Canada, de l'Ontario, vantent les mérites du Canada auprès des Tunisiens. Vous êtes sans doute au courant que le Canada compte accueillir 500 000 nouveaux arrivants dans l'espoir de répondre à la pénurie de main d'œuvre. Au moment où je vous parle, j'ai aucune idée du pourcentage de nouveaux immigrants francophones dans ces 500 000 nouveaux immigrants. Selon les derniers sondages, c'est 75% de Canadiens qui sont contre cette nouvelle approche d'Ottawa. 75%, ça fait beaucoup de monde. Êtes-vous surpris?
Non, pas tout à fait. Je ne suis pas du tout surprise et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un déficit de communication, à mon sens, au niveau à l'interne. C'est-à-dire que le Canada fait beaucoup d'efforts pour aller chercher des immigrants. Et si tel est le cas, c'est parce qu'il y a un besoin, il y a une raison pour cela. Mais si à l'interne, la population ne connaît pas, n'est pas suffisamment informée ou bien ignore complètement la raison pour laquelle le pays va prendre ou bien ouvre autant ses portes aux immigrants, parce qu'au niveau communicationnel, à l'intérieur du pays, il y a des manques totaux et c'est ça qui crée toutes ces peurs, qui crée cette méfiance envers ce programme d'immigration. Et je trouve qu'il est très urgent, il serait très urgent quand même que le gouvernement prenne des mesures concernant la communication interne. C'est-à-dire qu'on ne doit pas isoler les communautés. La communauté d'accueil est la première en première ligne et qui devrait connaître et savoir exactement toutes ces raisons-là, tous les enjeux derrière cette immigration. C'est avant tout un enjeu économique. Et si le gouvernement est assez clair par rapport à toutes ces explications, je suis convaincue pour ma part que les gens auraient une autre attitude. Et par ailleurs aussi, je pense que le dialogue doit être intercommunautaire en ce qui concerne l'immigration. C'est-à-dire que ce soit des personnes qui sont farouchement opposées à cette immigration, et celles qui sont ouvertes à l'immigration, les deux camps, ou les trois, je ne sais pas combien de parties on peut trouver, mais on doit tous se mettre autour d'une table et discuter de ça. Il faut avoir le courage d'aborder ce sujet de manière collective. C'est-à-dire que chaque communauté doit avoir son mot à dire et peut-être aussi avoir des propositions à faire. C'est-à-dire que si on est à l'écoute des gens, des personnes, il y aura moins de réticences, moins de refus. On travaille beaucoup sur l'antiracisme, mais ce serait beaucoup plus facile si chaque communauté pouvait déjà expliquer.
Avez-vous été consulté? Parce que 500 000 personnes, ça fait beaucoup de monde, ça. Est-ce que vous avez été consulté dans cette nouvelle approche?
Non, pas encore, mais ce que je peux constater, que je peux témoigner, c'est que y a les hôtels à Niagara Falls sont assez pleins d'immigrants, pas forcément francophones. Oui, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent et qu'on reçoit tous les jours dans nos bureaux des immigrants qui arrivent, ils sont pas tous francophones. Vous avez des immigrants latinos, il y en a beaucoup. Vous avez des anglophones, des francophones qui viennent d'Afrique. Ils arrivent vraiment massivement. Je ne sais pas comment certains disent qu'ils sont entrés par le Québec. Le Québec les a orientés vers l'Ontario. L'Ontario les a évidemment installés dans les hôtels à Niagara Falls. On parle de presque 110 familles immigrantes francophones. Et donc, c'est déjà pas mal. Mais il y a le problème de logistique, c'est-à-dire de logement. C'est comme si on était, c'est pas comme si on n'était pas prêt à accueillir, n'est-ce pas, tout cet afflux d'immigrés en même temps. Donc, il y a pas mal de questions qui se posent parce qu'ils viennent nous poser la question, le logement, les documents, le permis de travail, parce qu'ils veulent tous aller travailler, ils ne peuvent pas rester confinés dans l'hôtel, ils peuvent rien faire. Mais ça, c'est pas de notre sort. Nous, nous nous occupons de la partie sociale et culturelle. On se contente de notre partie parce que il y a plusieurs organismes francophones dans la région. Il faut laisser à chacun son secteur d'activité. Voilà. Nous référons les immigrants afin qu'ils soient informés de ce qui se passe. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent. Quel est l'avenir de comment tout ça va s'organiser? Jusque-là, on ne sait pas encore. Je suppose qu'on sera mieux informés dans les mois qui viennent.
Alors, pour les anti-immigrants, vous avez touché mot tout à l'heure, je dois leur rappeler Les taux de natalité baissent au Canada. Les nouveaux Canadiens seront essentiels donc à une société vieillissante. Le Canada est un pays d'immigration, terre d'accueil pour les réfugiés de guerre, les demandeurs d'asile pour des raisons politiques ou des personnes persécutées dues à leur orientation sexuelle. Souvent on n'y pense pas. Hein, on a très peu de Canadiens de souche de plus en plus sur notre territoire. Donc ça va causer problème d'ici 40 ans, 50 ans, n'est-ce pas?
Oui, bien entendu, à condition que les Canadiens de souche, comme vous dites bien, ne soient pas informés. Mais si on les informe, et s'il y a des dialogues, moi j'insiste beaucoup sur le dialogue, parce que c'est à travers les dialogues qu'on peut trouver des solutions. Même les personnes les plus farouchement opposées à cette immigration, quand on se retrouve, si elles se retrouvent autour d'une table où on discute de cette immigration et qu'on mette clairement sur la table les enjeux, avant tout des enjeux économiques. Et quand on parle de l'économie, c'est pour le bien-être collectif. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Je pense que s'ils le comprennent bien comme il faut, même s'ils sont contre, ils auront peut-être des solutions à proposer différemment, qui seront différentes. Mais le fait que les gens sont associés à des décisions de cette importance, je pense que ça change toute la donne et toute la vision qu'on peut avoir par rapport au sujet.
J'aimerais un jour travailler avec vous. On n'a pas beaucoup, beaucoup de temps. Il y a encore plusieurs invités qui nous attendent un peu partout. Mais on parle un peu de comment revitaliser, si vous voulez, ce message auprès des organismes, auprès de la population, du public en général, pour démontrer que tous les immigrants qui arrivent sur cette terre ne sont pas des pauvres, ne sont pas des réfugiés. Il y en a beaucoup qui arrivent avec un bagage culturel, professionnel, énorme. Et le gros problème du Canada, et surtout au niveau de la francophonie, il y a cette reconnaissance des diplômes ou le processus d'évaluation qui prend un temps fou. Et vous et moi, on en parle depuis des années, depuis les années 80. Hein, on parle comment activer, comment améliorer ce système de reconnaissance de diplômes, et donc beaucoup de francophones, moi j'en connais, originaires d'Afrique, d'Haïti ou ailleurs, vont du côté anglophone parce qu'il faut bien gagner son pain et son beurre, n'est-ce pas?
Exactement, et j'en suis un, justement, je suis un des cas qui démontre qu'effectivement on peut très bien vivre en français dans la partie anglophone, s'épanouir, et je pense que ça va beaucoup plus vite du côté anglophone parce qu'on comprend très rapidement que on doit se prendre soi-même en charge, on doit trouver sa place, on ne peut pas être dans l'attentisme, et que on vient avec plusieurs talents, un don minimum, mais plusieurs talents, et qu'on peut développer ces talents-là. Ça va beaucoup plus vite quand on est même quand on est francophone, j'insiste bien, même quand on est francophone en Ontario, ça va plus vite que de rester dans un milieu exclusivement francophone. C'est triste à dire, mais c'est la réalité.
Oui. Et je sais que mes propos vont causer beaucoup de débats. Je vois déjà des réactions. Alors, le mois de décembre s'approche et Sophie Franc organise, comme chaque année, quelques activités pour terminer l'année en beauté. Sophie Franc veut aussi apporter un rayon de soleil dans le cœur des enfants issus de l'immigration. Vous avez 60 secondes pour sensibiliser les auditeurs qui ont peut-être des cadeaux à vous offrir. La parole est à vous, chère Fété.
Ben écoutez, chaque année, on fait ce plaisir. On aime bien voir les étoiles briller dans les yeux des enfants. Alors, on fait appel à chaque fois à la générosité de la communauté. Nous savons que nous avons une communauté très, très généreuse. Cette année, c'est un peu plus difficile aussi. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées, la Covid, etc. Et puis, la récession qui est en cours. Mais s'il vous plaît, donnez un petit rien du tout. Ça fait tellement plaisir. Ça change tout. Dans le cœur, dans les yeux, le bonheur dans le regard des enfants, ça n'a pas de prix. S'il vous plaît, ensemble, allons chercher ce sourire et ce soleil dans les yeux des enfants. On peut le faire ensemble. Merci beaucoup de donner. Et vous savez où est-ce que vous pouvez donner? Vous pouvez donner chez Sophie Franc. Vous avez aussi ici la radio, justement, pour Courir, qui est notre partenaire. Vous pouvez passer par eux directement.
Alors, sophiefranc.org, le site web, c'est sophiefranc.org, sophiefranc.org, ou encore popourichaud.com. Vous retrouverez l'adresse de Sophie Franc, mais aussi toutes les directives et les activités que vous organisez pendant les fêtes de fin d'année. Fété, Kim Biopi, je vais vous appeler Mama Fété, parce que beaucoup de gens m'ont dit, on l'appelle Mama Fété, c'est plus simple. Alors, vous êtes fondatrice et directrice générale de Sophie Franc, solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara. Niagara, un organisme phare pour les nouveaux arrivants, organisateur des activités en présentiel, en ligne, tout au long de l'année, concerts, salons du livre, il y en a pour tous les goûts. Quel est votre mot préféré en 2 secondes ou expression préférée en français, Fété?
Là où tu es semé, il te faut fleurir.
Alors, on m'appelle de Djerba. Nos correspondants sont dans les rues de Djerba et font un micro-trottoir avec comme question « Que pensent les Tunisiens de la langue française ?» Merci infiniment, chère Mama Fété, pour votre dévouement. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Hein, ça s'approche.
Oui, c'est vrai. Pareillement. Merci beaucoup.
Et vous êtes comme une étoile au cœur de nos nuits. Je vous souhaite mes bons voeux de fin d'année. Merci pour votre partenariat. Que la force soit toujours avec vous et à très, très bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir.
Djerba, une île tunisienne de 514 km² située sur le golfe de Gabès. Célèbre pour l'éclectisme de ses résidents et de ses touristes, ses magnifiques plages, ses musées, son art de rue, ses villages pittoresques et ses marchés pleins de couleurs et de saveurs. Tellement de choses à faire à Djerba que des hotspots vous en a sélectionné 10, vous permettront de découvrir les différentes facettes de l'île et faire en sorte que votre séjour de tourisme à Djerba soit un moment inoubliable.
En tant que Tunisien, il y a des idées négatives et il y a des idées positives. Bon, disons que la plupart des Tunisiens, ici, ils ne maîtrisent pas très bien la langue française, vous voyez. Mais tu vois, il y a d'autres gens qui maîtrisent très bien la langue française, ceux qu'on les trouve dans les sociétés, ceux qui travaillent et tout ça. Et même ceux qui étudient dans les universités et tout. Mais moi, ce que j'en pense de la langue française, elle est bonne, tu vois, pour, ça t'aide déjà pour travailler, ça t'aide pour entrer à des emplois, des trucs comme ça, c'est tout, voilà.
Je pense que la langue française en Tunisie représente comme deuxième langue, qui est primordiale, je pense, qu'elle est importante pour notre pays, parce que vu qu'on a eu, on était colonisé par la France, donc c'est une deuxième langue qui est importante pour nous.
La langue française n'est pas mauvaise. Mais je crois que la chaire internationale, c'est la langue anglaise est la meilleure. C'est tout.
Moi, la langue française, c'est une langue en perdition. Pourquoi ? Parce que malheureusement, les Tunisiens, nous avons notre langue qu'on a délaissée. Donc, nous n'allons pas nous comporter de manière meilleure vis-à-vis d'une langue étrangère. C'est vrai qu'à un certain moment, la langue française elle avait une place au soleil dans notre pays. Parce qu'on commençait, même si on commençait à l'époque, on commençait assez tard. Parce qu'on devait faire 2 années seulement d'arabe. Et puis, à partir de la 3e année, on fait du français. Pour mon cas, par exemple, j'ai étudié le français pendant à peu près dans les 20 ans. Donc, voilà. La langue française, les Tunisiens, c'est vrai, on parle de plus en plus peu, parce que tout simplement, on ne parle aucune langue. Oui. Nous sommes nuls dans notre langue et nous sommes nuls dans les langues étrangères. Et c'est vrai, c'est un problème, parce que c'est l'échec du système scolaire. Voilà.
Comme vous le constatez, les avis divergent comme toujours. Pour le citoyen tunisien, la langue française reste importante, mais cela ne lui confère pas un statut privilégié. Alors aujourd'hui, quel avenir pour la langue française en Tunisie? Continuez le débat chez vous.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now with Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Organisé par le peuple, pour le peuple. CUT 89,5 FM est le son de votre ville. Montrez votre soutien en faisant un don en ligne sur cut.fm afin de nous garder sur les ondes.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale?
ici Eric Kader. Je vous invite à Potpourri Show, le magazine de la francophonie. L'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne de la Faculté d'Éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le Département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la Chaire de Recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Potpourri Show en nous envoyant un message à potpourri@cut.fm ou visitez notre site web potpourrishow.com. Potpourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Eh oui, le français poursuit son déclin au Québec et partout au Canada. La francophonie a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de la personne. Mais quel avenir pour la langue française en Ontario et au Canada? On en parle dans un instant avec notre prochain invité, Carole Fleuret, professeure titulaire à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, chercheuse, auteure, co-auteure de plusieurs ouvrages, des recherches sur la didactique des langues secondes, sur les répertoires, sur le plurilinguisme. Elle s'intéresse aussi aux différents modèles de services d'accueil pour les nouveaux arrivants, des ouvrages très, très inspirants. Carole Fleuret, un nom à retenir. Voilà une autre belle perle de l'Ontario français. En direct des studios de CUT-FM à la Radio Campus de l'Université de Toronto, qui vous transporte aujourd'hui à Djerba dans le cadre du Sommet de la Francophonie. Une émission réalisée en partenariat avec TV5 Monde, France 24, Radio France Internationale. Et je tiens à remercier très chaleureusement tous les participants invités, professeur Emmanuel de Puchon-Wortmann, directrice du CREFO, Fété Kinyombi, directrice générale de Sophie Franc, Niagara, Fabien Hébert, nouveau président de l'Assemblée de la Francophonie, organisme provincial représentant plus de 700 000 franco-ontariennes à franco-ontariens. Et pour terminer, en beauté, nous accueillerons Elisabeth Drapeau, fondatrice de Tolalito Music, une jeune femme déterminée, engagée pour défendre les droits des artistes issus de la diversité francophone à Montréal. Oups, mais on me fait signe, peut-être elle est déjà chez nous, ici à Toronto, à ne pas manquer avant la fin de l'émission. Nous sommes très très heureux de notre partenariat avec Tolalito Music. Bonjour professeur Carole Fleuret, merci d'être au rendez-vous aujourd'hui.
Bonjour.
Alors un grand merci d'avoir répondu à notre appel. Êtes-vous déjà allé à Djerba? Ça vous dit quelque chose?
Oui, bien sûr. Non, j'ai pas fait Djerba, mais oui, je connais la Tunisie.
Suivez-vous un peu les délibérations de ce sommet? Comment expliquer ce manque d'intérêt de la part de nos francophones du Canada?
Alors, écoutez, c'est un grand débat. Je pense que pour le Premier ministre, on peut se questionner effectivement sur l'importance de la place du français au sein des communautés. Oui, effectivement, je pense qu'il veut. Qu'il veut qu'il y ait quand même un certain nombre d'émigrants qui viennent au Canada, parce que c'est vrai qu'il faut le peupler, ce Canada. En Ontario notamment, on a besoin d'immigrants francophones pour aussi peupler les écoles de l'Ontario. Mais le problème, c'est que on sait pertinemment que le dernier recensement l'a extrêmement bien montré, justement, c'est qu'il y a quasi 81% des immigrants qui arrivent en Ontario qui choisissent l'anglais. Mais je pense que c'est pas eux qu'il faut pointer du doigt. Je pense que là où il faut se questionner, c'est sur la mobilisation que l'on fait à l'égard du français sur le plan des politiques qu'on met en place. En ce moment, on est là, on tergiverse avec la loi sur les langues officielles, etc., etc. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une analyse qui soit faite, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, pour proposer vraiment un plan qui concerne la relance des francophones. Moi, j'aime pas trop le de souche. parce que j'écoutais ce que disait, j'ai oublié son nom, Mama quelque chose.
Mama Fété, Mama Fété.
C'est ça?
Oui.
Oui, c'est vrai qu'il va y avoir un nombre de francophones, d'émigrants qui vont dépasser les Canadiens, mais je pense que là où elle a raison, c'est qu'effectivement, il y a un travail de sensibilisation à faire pour expliquer le pourquoi de la venue des immigrants. Mais cette espèce d'appellation de souche, moi personnellement, je l'aime pas. On dirait qu'il y a les vrais francophones ou les vrais Canadiens, puis il y a les autres qui ne le sont pas vraiment. Quand on est de première, deuxième génération, qu'on est totalement investi dans la société ou qu'on se retrouve là pour toutes sortes de raisons géopolitiques, je pense que c'est pas le de souche qui va faire la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Oui.
Vous savez, moi, quand je suis arrivé au Canada, ça fait plus de 42 ans, 43 ans, j'en compte plus, les années passent, mais... Moi, je connaissais pas ces expressions de souche, pas de souche, tricoté serré, tout ça. J'ai appris ça au Canada.
Ouais, moi non plus.
Alors, j'étais dans une réunion, on était là, parce que j'étais intéressé à m'engager au niveau communautaire. Et puis, il y a une dame que je nommerai pas, je ne sais pas où elle est aujourd'hui, mais elle avait un poste très important dans un des conseils scolaires de la grande ville de Toronto. Et puis, elle m'a carrément dit, après la rencontre, elle m'a chuchoté en me disant, mais tu sais, il faut attendre, hein, parce que nous sommes là depuis très longtemps. Nous sommes des Canadiens français de chouche. Et vous devez quand même nous laisser réchauffer un petit peu la chaise. Et puis, un jour, ce sera votre tour. Comme ça, tout bonnement.
Mmh.
C'est quelque chose. Hein. Et ça, c'est vrai. Oui. C'est une histoire vraie que je vous raconte.
Ah oui, non, mais je vous crois et puis je l'entends aussi autour de moi, mais je trouve que c'est d'une violence extraordinaire sur le plan symbolique parce que il y a toutes sortes de gens qui s'investissent. Il y a une excellente émission qui passe, je crois, sur TV5 qui s'appelle Immigrants de souche.
Oui,
je trouve que justement le sarcasme est intéressant où justement on explique à quel point il y a des tonnes d'immigrants qui ont un impact dans la société québécoise, francophone ou canadienne même. Alors, moi, ce terme de souche, comme je vous dis, ça me dérange parce qu'on dirait qu'il y a les vrais puis il y a les autres. Alors, je sais pas. En tout cas, par rapport au déclin, c'est ça. Il faut vraiment... Il y a beaucoup de chercheurs qui l'ont déjà... Moi, j'ai des collègues à Ottawa, notamment Louza Véronique, Martin Meunier. Il y a toutes sortes de gens déjà qu'on mis de l'avant, effectivement. Il faut qu'il y ait une analyse sérieuse qui soit faite. Alors, vous savez, en même temps, le Premier ministre, moi, je me questionne un petit peu sur vraiment la place qu'il accorde aux Français au sein de la société. Tu sais, quand on dit les gens sont bilingues ou il y a deux langues officielles, ben, c'est questionnable parce que de plus en plus, le français prend un petit peu, disons, commence à pâlir. Alors, en plus, on est dans des sociétés hégémoniques par rapport à l'anglais, mais là, on questionne le fait que, par exemple, un juge à la Cour suprême soit bilingue, alors qu'il me semble que si on a deux langues officielles, par définition, ça veut dire aussi que les juges doivent parler les deux langues. Bref, il y a toutes sortes de choses comme ça où on voit tranquillement que les services au niveau fédéral ne sont pas forcément bilingues. C'est pas vrai, faut arrêter de dire ça. On le voit au sein de nos universités aussi. Là, on a joué du coude à Ottawa. Il y a eu tout un rapport qui est sorti au cours de la francophonie, mais il y a beaucoup de profs qui sont engagés, par exemple, qui sont unilingues. Là, le rapport sur la francophonie souligne que il faut que ce soit les gens qui ont des postes de haute fonction qui soient bilingues. Oui, mais c'est pas forcément avec ces gens-là qu'on travaille. C'est plus avec nos collègues, avec des professeurs. Donc, vous voyez, il y a toujours une espèce, et c'est ça qui est un petit peu dommage.
Mais est-ce que récemment...
C'est un combat permanent à mener.
Oui, est-ce que récemment, j'ai pas vu quelque chose que l'Université d'Ottawa est une entité bilingue maintenant? J'ai vu ça, il me semble, sur Twitter, il y a quelques semaines.
Oui, elle se dit bilingue. Et puis là, il y a eu le dernier rapport, justement, qui est sorti, où le vice-doyen à la francophonie, elle venait en a parlé. Oui, sur le fond, c'est vrai, mais quand on regarde que dit ce rapport, c'est que c'est les hautes instances qui doivent être bilingues, alors qu'on sait qu'on a plein de professeurs qui sont là, qui sont unilingues. On sait aussi qu'on offre des postes soi-disant bilingues, mais qui n'ont bilingue que le nom, parce que les profs engagés ne parlent pas français. Donc, il y a un vrai travail de fond. C'est simplement ça que je veux dire. Je ne veux pas forcément pointer du doigt l'Université d'Ottawa. Je veux dire, au niveau provincial, même fédéral, il y a un gros travail qui doit être fait, une analyse sérieuse qui doit être faite pour pouvoir répondre au mieux à la francophonie. Et pour le moment, c'est pas fait.
Non.
Et ça, c'est un gros souci, en fait, parce que c'est pas parce qu'on va se dire bilingue que le français fait quoi de pérennité. Moi, j'y crois pas du tout, là.
Maintenant, invité, madame, monsieur, aujourd'hui, professeur Carole Fleuret, les professeurs titulaires à l'Université d'Ottawa. Vous êtes aussi une experte en francophonie. Vous menez des études sur l'appropriation de l'écrit, entre autres, sur le développement orthographique et sur les composantes socio-cognitives et culturelles en jeu dans la socialisation à l'écrit auprès des populations minorisées dans une perspective interculturelle. J'ai un message ici d'un auditeur qui dit oui, la francophonie va très mal. Il faut refuser de se taire, il faut vite la secouer, la réveiller, la sauver. Le journal Le Devoir titrait récemment « Clap de fin pour la francophonie ». Les politiques sont en train de conduire dans un cortège silencieux la dépouille de la francophonie vers son tombeau.
Ouais, je trouve que c'est un petit peu... Bon, moi, j'irai pas si loin. On va pas s'ouvrir les veines tout de suite. On va attendre un peu. Non, je pense que oui, effectivement, il y a quelque chose d'alarmiste ici. Puis, oui, c'est pas faux non plus. Mais c'est ça. Je pense que le dernier recensement l'a clairement montré. Et c'est pas le fait, c'est pas à cause des immigrants. Et qu'il faut arrêter. Puis, ce que disait votre l'autre directrice qui est intervenue, j'ai encore oublié son nom, excusez-moi. Oui. L'idée, c'est de sensibiliser, c'est pas de dire il y a les vrais, il y a les faux, c'est les immigrants qui nous empêchent de. Non, c'est pas vrai. Ça. C'est simplement un petit peu comme en Tunisie, il y a le même souci, c'est que quand les langues deviennent minoritaires, on a des enjeux sociolinguistiques extrêmement complexes. Mais il faut tenir compte de ces contextes-là et adapter en fait les mesures que l'on met en place pour que la francophonie ait cette pérennité justement dont on parlait.
Vous avez entendu l'expression de la grande directrice secrétaire générale de l'OIF hier pour l'ouverture dans son discours. Elle a dit « Moi, je veux une francophonie décomplexée ».
Tout à fait. Je pense qu'il faut l'avoir plurielle, la francophonie. Et c'est ça, en Ontario, notamment avec Emmanuel, vous parliez d'Emmanuel Pichon-Bovotman, on travaille ensemble comme avec Nathalie Auger, mais c'est ça qu'on essaye de faire en Ontario, c'est de la rendre plurielle. Il faut déconstruire ces représentations pour la rendre plurielle, la francophonie. Mais le souci qu'on a aussi en Ontario, et qui est complètement légitime, c'est cette espèce de peur d'être assimilé à l'anglais de façon systématique, parce qu'il y a cette blessure, justement, sur cette lutte douloureuse que les franco-ontariens ont vécue, pour pouvoir avoir des écoles de langue française, des conseils scolaires de langue française. Alors, il faut trouver une espèce de juste milieu pour leur faire comprendre que c'est pas dangereux que d'autres langues rentrent dans votre salle de classe. Ça va juste développer des sentiments d'appartenance chez vos élèves. Ils auront envie de parler français pour les bonnes raisons. Pas parce qu'ils se sentent obligés.
Vous savez, professeur Fleuret, moi je viens d'un pays, l'île Maurice, où on a toujours côtoyé des hindous, des chinois, des musulmans, vous connaissez sans doute. Hein, là. Alors, on est né dans ce bain de métissage culturel, linguistique, on parle l'anglais, le français, le créole, le hindi, le tamoul. L'anglais et le français sont quand même les deux langues principales. Mais on n'a jamais eu ce débat, autant que je sache. Il faut faire attention de ne pas parler trop anglais, sinon tu vas tomber dans le bain anglophone. Alors, moi, quand j'arrive ici au Canada, je me dis, mais pourquoi on peut parler plusieurs langues. J'ai des neveux, nièces en Italie qui parlent l'espagnol, le créole, l'anglais, le français. Et il n'y a pas de problème. Et presque non. Sans accent. Alors, je trouve, il y a quelque chose qui manque ici au Canada.
Oui, mais je pense que des sociétés, par exemple, comme vous le disiez, comme l'île Maurice ou encore la Réunion, où il y a une espèce de coexistence langagière, multilangagière, voilà. Eh bien, pour les gens, c'est quelque chose de légitime de passer de l'ourdou à une autre langue ou du créole réunionnais ou mauricien à l'anglais. Ça ne pose pas de problème parce que les langues ont l'habitude de coexister. Oui. Au Canada, on est dans un dualisme langagier. Donc, c'est encore différent parce qu'on est dans quelque chose qui reste binaire. Alors, du côté anglophone, on n'a pas ce souci-là à l'égard des langues, notamment à l'égard des autres langues, parce que la société est anglo-dominante. Oui. Sauf que du côté Ontario francophone, le français est minoritaire. Donc, il y a des enjeux sociolinguistiques inévitables. Mais c'est pas grave, on peut arriver à faire des choses. Mais encore faut-il, si on veut, comment dirais-je, faire comprendre aux franco-ontariens que les autres langues ne sont pas un danger, il faut par contre qu'il y ait des mesures mises en place qui soient clairement encadrées.
Mais,
et alors, c'est ça qui manque.
C'est la clôture de notre campagne de collecte de fonds. Okay. 35 ans après, les auditeurs contribuent généreusement, sans relâche. Comment expliquez-vous cette fidélité? Et là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent au Québec, en Angleterre, en France, en Bretagne, en Allemagne, parce que par Internet, on peut retracer, hein, qui nous écoutent. Comment expliquez-vous cet intérêt? Parce que parler de francophonie hors Québec, c'est très rare, parce que je vois quand je voyage en France et en Bretagne, on dit « Ah, tu es du Québec !» À la rigueur, peut-être l'Acadie, le Nouveau-Brunswick, mais quand on dit qu'on vient de l'Ontario, oh, c'est un choc.
Oui, mais en même temps, vous savez, partout dans le monde, on connaît pas tous les endroits où il y a de la francophonie, oui. Même la plus petite soit-elle.
Oui.
Alors, c'est sûr que le Canada, encore une fois, oui, c'est une question de connaissance, je dirais, générale, mais je pense pas qu'il faille pointer du doigt ces gens-là. C'est juste que le Canada est clairement anglo-dominant. Et puis qu'on sait que le Québec, notamment par la visibilité qu'il a à travers les médias, à travers les artistes, à travers de toutes sortes, qu'ils soient
musicaux, qu'ils soient littéraires.
Oui. C'est ça. Donc, il y a un rayonnement qui fait que le Québec, forcément, est beaucoup plus familier.
Oui.
Parce que vous parliez de la France. Moi, je viens de là, vous le savez. Donc, c'est sûr qu'en France, les Québécois sont extrêmement appréciés, oui. Aimés. Et donc, il y a un rayonnement qui se fait. Donc, il n'est peut-être pas du côté franco-ontarien parce que peut-être que la francophonie s'exporte différemment. Et oui. Encore une fois, je me permettrais de faire le lien avec si on avait des politiques efficaces, clairement établies, on pourrait faire rayonner cette francophonie en dehors de l'Ontario.
Alors, on me fait signe, on me dit que les gens nous attendent à Djerba et vous êtes professeur titulaire à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Je vois ici que vous avez été sélectionné récemment par le centre Jules Léger en tant que co-leader pour le développement d'un programme d'intervention en lecture pour les élèves francophones de l'Ontario. Toutes mes félicitations. Je rappelle aux auditeurs que le centre consortium, centre Jules Léger, est une institution provinciale francophone offrant une éducation spécialisée en Ontario pour les enfants ayant des troubles sévères d'apprentissage. C'est toute une mission, c'est un engagement. Il y a un programme de résidence même, je pense, et je pense aussi c'est un centre qui travaille en étroite collaboration avec les conseils scolaires francophones, n'est-ce pas?
Exactement. Et si vous me donnez une petite minute, je vais expliquer pourquoi je me retrouve dans ce projet. C'est parce qu'il y a eu un rapport qui a été fait par des anglophones, The Right to Read, et qui a fait des recommandations pour des stratégies de lecture, pour améliorer en fait la lecture chez les élèves ontariens en général. Mais à aucun moment, les francophones ontariens n'ont été sollicités.
Et ben.
Donc, on sait qu'il y a des enjeux particuliers et personne n'a décrié. Alors, on a été sur les ondes, on a écrit, on a fait des choses et finalement... Là, il y a une espèce de wake-up call, si vous me permettez.
Mm-hmm.
Et là, finalement, le centre Jules Léger a été donc sollicité. Et c'est un travail de partenariat que je fais avec une autre collègue, une orthophoniste. Et on va mettre en place un programme rédigé par des francophones pour des francophones en Ontario.
Alors, vous retrouverez, madame, monsieur, toute la biographie de Carole Fleuret sur le site de l'Université d'Ottawa ou encore sur popourichaud.com. Merci infiniment, professeur Carole Fleuret. J'espère qu'on aura l'occasion de vous voir en personne un jour. Mille merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite de très bons vœux pour les fêtes de fin d'année. Que la force soit avec vous.
Vous de même. Au revoir.
Au revoir.
La radio communautaire à temps plein, à son meilleur, 24 à 7, 365 jours par année. Surfez sur les ondes de CUT 89,5 FM. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 100 000 $ en faisant un don aujourd'hui à www.cut.fm. Cliquez sur le bouton Donate pour faire un don et soutenez le son de votre ville.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourichaud et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster les histoires, dévorer les pages, savourer les mots en fin gourmet de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Help us reach our $100,000 goal by donating today at www.ciut.fm. Click the donate button and support the sound of your city.
Okay, Yeah. Moi je suis qui? Ouais. Yeah. Moi je suis quoi?
C'est le tourbillon des super filles du roi. Qui ont unifié le français ici au Canada. Je fais l'interprète comme Mathieu Dacosta. De Niagara à Matawa à Wawa.
Je saute sur le métro, je rêve tout haut. Hier premier tour bien enraciné. Je prends le train go, je chante tout haut. Je parle en français, chez nous en Ontario.
Le monde a qui se fera qu'on rentre. Yeah, yeah, yeah. Et pour comme nous, c'est un flashy.
La plus longue rue du monde. Yeah. À mes oreilles, mes dialectes abondent. Des premières nations aux derniers arrivés. Je vis dans un monde plein de sonorités.
Comme Jing Ma Opi sur NUFL. Ma langue, c'est le point de cette tour des Babel. Partout en Ontario, au pays d'en haut. Autour du monde, je monte toujours plus haut. Yeah.
Et moi, ma quête, c'est franco-ontarienne.
Yeah.
Et franco nous c'est ce flashy.
Je saute dans un canot, oui, je dois filer vers ma nature pour retrouver mes racines, mes trésors de famille, mes origines. Puisqu'on est plus qu'une chose dans la vie, grand comme une tour, mon cœur a plein d'amis. Un vent de chez nous me rappelle qui je suis. Moi, je ne m'assimile pas, je m'enrichis. Yeah.
Fier d'être venu et d'être resté là, d'être encore là après tant d'années.
Et oui, vive la francophonie de l'Ontario! Et dans un instant, Monsieur Fabien Hébert, nouveau président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO. Il succède ainsi à Carole Jelin, qui a assuré la présidence de cet organisme de 2016 à 2022. Édition spéciale, 18e sommet de la francophonie, les 50 ans de l'OIF et la clôture de la collecte de fonds de CUT-FM. Popourri Show vous remercie infiniment. Merci à Nicole, Geneviève, Rolande, Jasmine, Roland Bain, fondateur de Kepkaï du Mois du Créole à Montréal, Jean Jubeneau, Elisabeth Drapeau et les artistes de Telalito Music, les nombreux auditeurs en France, en Allemagne. Merci, merci mille fois. Eh oui, Popourri Show, 35 ans déjà. J'ai le plaisir maintenant, madame, monsieur, d'accueillir pour la première fois monsieur Fabien Hébert. Il est encore très méconnu de nos auditeurs. J'espère que son passage à notre émission lui donne un coup de pouce. Il est le nouveau président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Il succède à Carole Jolin, qui est passée régulièrement cette émission. Il a travaillé à titre de président-directeur général de l'hôpital Smooth Rock Falls de 2004 à 2018. Au fil des années, il a siégé à plusieurs conseils d'administration des réseaux francophones de santé du nord de l'Ontario. Bonjour, monsieur Fabien Hébert.
Bonjour, comment vas-tu?
Très heureux de vous recevoir pour la première fois à notre antenne. Ça fait plus de 40 ans que j'œuvre dans la communauté francophone de l'Ontario. J'ai même visité Hearst, c'est là où vous résidez, n'est-ce pas?
Exactement.
Et j'ai passé là plusieurs reprises, mais je ne vous ai jamais rencontré. Comment ça se fait?
Je pense que parce que tu n'étais plus dans une tempête de neige que tu m'as dit déjà.
En effet, j'oublierai jamais ça. Passer 4 jours pendant la tempête de neige. Mais vous savez quoi? Je garde un bon souvenir parce que c'était le jour où Nelson Mandela devenait un homme libre de sa prison. Donc j'étais dans ma chambre d'hôtel et je garderai toujours... Vous savez, il y a des événements qui arrivent comme ça dans votre vie, comme l'attentat à New York, ou encore la mort d'Elvis Presley, ou d'autres événements pareils. Alors moi, je me souviendrai toujours de Hearst. Mais aussi, je garde un bon souvenir, c'est une ville que beaucoup d'Ontariens méconnaissent, n'est-ce pas? Comment expliquer? Comment expliquer qu'on n'arrive pas à connaître, et même les gens ne sont pas intéressés? Il y a une université, il y a une radio communautaire. Vous, quoi, 80% de cette ville parle français, n'est-ce pas?
93%.
Eh ben.
Mais la distance est souvent notre ennemi, parce qu'on est quand même à 1000 km de Toronto, 1000 km d'Ottawa, 500 km de Thunder Bay, 600 km de North Bay, donc... C'est un petit peu à l'extérieur des sentiers battus, là,
oui.
Quand on veut venir vers Hearst. Mais par contre, lorsque vous y venez, on y cultive des souvenirs mémorables, comme tu dis.
Oui. Alors, l'Ontario est bien représenté à Djerba par la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney. L'Ontario est membre observateur de l'OIF. La francophonie perd ses plumes, selon plusieurs rapports. Vous avez lu ça, c'était au mois d'août. Quel est votre regard sur ce sommet de la francophonie?
Ben, pour nous, je pense qu'on est très heureux que Mme Mulroney participe. On sait que d'ailleurs, on a fait une étude au niveau tout récemment cet été, là, nous aussi, au niveau de l'économie, pour justement la francophonie ontarienne. Puis on sait qu'on a des endroits où on pourrait faire des gains très intéressants. Donc pour nous, que Mme Mulroney soit là, c'est clair que c'est représenter les intérêts de l'Ontario, de promouvoir le fait qu'on peut faire du travail en français en Ontario, qu'on est capable de faire des échanges économiques en français en Ontario, et puis en espérant que ça va nous rapporter des bénéfices.
Selon vous, quels sont les enjeux les plus importants en matière de francophonie en ce moment?
Ben, c'est sûr que je crois que l'immigration, c'en est certainement une, si on parle des enjeux en général. On sait qu'on a une population francophone déclinante au Canada. On mise sur la francophonie, sur l'immigration pour maintenir nos chiffres au niveau de la francophonie. C'est un excellent endroit pour faire découvrir la francophonie ontarienne, par exemple, de participer au sommet de la francophonie.
Oui.
Ça va peut-être encourager des gens de vouloir venir même s'établir dans notre région.
Je sais qu'il y a beaucoup d'immigrants maintenant à Timmins, à Sudbury, mais vous savez quoi, nous sommes en contact avec tous ces gens. D'ailleurs, vous avez dit, lors de votre élection, vous voulez répondre aux besoins de la communauté francophone de l'Ontario en mettant l'accent sur la santé, sur l'université de Sudbury, ainsi que sur l'intégration des nouveaux immigrants. Certains immigrants, cependant, pensent qu'il n'y a pas assez de vraie intégration. S'il n'y a pas d'équité en matière d'emploi, qu'on parle depuis très longtemps, vous savez, avec cette reconnaissance des diplômes, mais rien n'a vraiment été fait dans le passé. Et depuis des années 80, fin 80, qu'on parle de ça, monsieur Hébert. Et je peux vous dire par expérience, les immigrants préfèrent finalement changer de cap, s'orienter vers les anglophones qui semblent les accueillir à bras ouverts. Comprenez-vous un peu leur frustration?
Oui, je peux certainement comprendre. Par contre, j'aimerais peut-être qu'on m'explique si au niveau de reconnaissance de leurs acquis, si ça se passe différemment en anglais. Parce que je croirais pas que ça, c'est une différence au Canada. Je crois que la reconnaissance des acquis est la même que tu sois francophone ou anglophone. Mais, comme vous dites, malheureusement, peut-être que c'est plus, le cheminement est plus facile dans le sens qu'il y a plus d'opportunités de se trouver des emplois dans l'univers anglophone, malheureusement. Donc, à ce moment-là, ça les attire là. Mais oui, vous avez raison. Dans ma plateforme électorale, on a parlé de travailler sur la reconnaissance des acquis parce que, justement, c'est une façon très rapide de faire bénéficier la province au niveau des pénuries d'emplois, d'employés, là, de professionnels qu'on a. On le sait dans tous les domaines présentement. Et même dans le Nord, même chez nous, à Hearst, on vit des pénuries d'employés. C'est incroyable.
Mais, alors, vous, votre point fort, c'est quand même la santé. Hein? Et là, je vois Radio-Canada, hier soir, on parlait de ces patients, même quelques infirmiers francophones qui trouvent que le service en français n'est pas toujours présent pour les malades. Et il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre les directives en anglais, vous savez, et on joue entre la vie et la mort, là. Alors, donc, vous avez des dossiers très chauds, là, et très immédiats que vous devriez peut-être commencer à étudier assez vite.
C'est déjà commencé. On a déjà commencé nos rencontres avec les instances en santé pour ouvrir le dialogue, puis justement avoir des actions rapides. Une des premières actions qu'on aimerait que le gouvernement soit capable de mettre en œuvre, c'est l'offre active. C'est être capable de, lorsque le patient se présente à l'hôpital, qui a trop besoin de demander le service en français, qu'il lui soit offert du début. Aussi, on aimerait, puis je crois que ça va devenir une réalité bientôt, que la variable linguistique soit identifiée sur la carte santé.
Mais en même temps, c'est difficile. Je regarde partout en Ontario, les médecins de famille se réduisent régulièrement. On voit des statistiques, des données qui disent que beaucoup de bureaux de médecins de famille vont fermer d'ici 5 ans, 6 ans. Alors, je ne sais pas comment on va faire si on tombe malade, si on ne peut pas même avoir des services en anglais, à aller chercher un médecin qui parle français ou des soins de santé qui offrent des services en français, ça va être encore tout un défi.
Absolument, vous avez raison. Puis d'ailleurs, il y a aussi la location ou le médecin de famille, par exemple, ne limite pas seulement sa pratique à des clients francophones, même si le médecin est français. Donc les ressources francophones sont encore même diluées.
Exactement.
C'est ça. Tandis que le patient anglophone, lui, s'il se présente chez un médecin francophone, le médecin francophone va le tourner en anglais, donc ça va. Lui, il va recevoir les services, mais c'est les francophones qui sont défavorisés dans cet échange-là.
En tout cas, nous sommes vos alliés. Vous pouvez compter sur nous. Quand vous avez des annonces, vous avez des stratégies annoncées, vous voulez avoir de support de la communauté, signer des lettres pour des ministres et tout ça, nous sommes là. Je vous souhaite bonne chance. Nos portes sont grandes ouvertes. En 35 ans, nous avons su développer des assises solides, comme vous le savez, auprès de nos auditeurs francophones et organismes partenaires. Donc, nous sommes très heureux que vous soyez des nôtres lors de cette émission spéciale aujourd'hui dans le cadre du sommet de la francophonie. Monsieur Fabien Hébert, président de l'AFO, qui représente les droits de plus de 700 000 francophones en Ontario. Très intéressant de voir. Moi, je pense qu'il y a plus d'un million de francophones ou de personnes parlant français. Ça, je suis convaincu qu'on dépasse amplement le 1 million. Pensez pas.
Je crois que les nouveaux statistiques vont nous dire probablement que vous avez raison.
Alors, monassemblée.ca, c'est le site web. Allez visiter Madame Monsieur ou encore popourichaud.com. Merci encore et que la force soit avec vous. Votre mot préféré en français en 2 secondes.
C'est nous sommes et nous serons.
Ah, c'est parfait. Je vous remercie infiniment. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir.
D'origine haïtienne nominée au prix des musiques Kilimanjaro, qui s'est tenue hier soir à Toronto. Et dans un instant, la fondatrice de Tola Little Music sera des nôtres, à ne pas rater.
A-t-il remporté un prix ou pas? Et compagnie de Rose Mika, une autre jeune artiste qui était à l'émission récemment, mais celle qui est responsable du succès de ces artistes émergents, issus de la diversité, elle s'appelle Elisabeth Drapeau, fondatrice visionnaire chez tolalitomusic.com. Ah ouais, très beau site, allez voir. Alors, si tu es à Montréal, bonjour Elisabeth.
Bonjour, bonjour.
Eh, ça va, vous êtes réveillée là, pas trop fatiguée? Vous avez fêté, je pense, hier soir?
Oui, oui, on a bien fêté, on est très contents.
Comment vous... Il faut venir à Toronto plus souvent.
Oui, ben oui, mais on bouge beaucoup, on bouge beaucoup.
Alors, félicitations, parce que j'ai appris, quelqu'un vient de m'appeler pour me dire que ça a été un succès pour Richie J hier soir.
Oui, la coupe du meilleur album de l'année.
Ouais, waouh, bravo. Alors, vous voyez, ça n'a pas tellement fonctionné à l'autre festival gala de la disque, là. Vous savez, l'autre gala, là.
Oui, à la disque, mais on est très contents parce que c'est vraiment...
Alors, vous comprenez pourquoi il faut venir vivre en Ontario ou à Toronto?
Oui.
Là, au moins, vous...
On est très prêts.
Là, au moins, vous allez gagner des prix. On va vous reconnaître vos talents.
On apprécie. C'est vraiment une belle communauté. On est très contents.
Oui. Alors, on a quelques secondes. On fait une émission spéciale dans le cadre du sommet de la francophonie. On faut parler aussi des obstacles qui existent dans cet engrenage culturel, médiatique, professionnel, où les gens issus de la diversité, y compris des artistes, des jeunes talents, n'arrivent pas à trouver leur place dans la société canadienne. Et vous, qu'est-ce qui vous a, comme, je ne sais pas, poussé à fonder une Tolalito Music?
Tolalito Music a émergé aussi en pandémie avec tout le bagage qu'on avait déjà travaillé avec l'artiste suicidé depuis 2015. C'est vraiment l'accomplissement de beaucoup de projets qui a fait qu'on a pris confiance. On a dit, OK, on est capable de faire notre propre agence, puis d'avoir un nom, d'être capable de se représenter professionnellement. Moi, j'étais allée chercher beaucoup de formations. J'avais confiance. Donc, j'ai lancé Tolalito avec l'artiste suicidé, puis après ça, on a pris d'autres artistes avec nous, dont Rose Mika qui était aussi en nomination hier pour meilleur vidéoclip. Donc, on travaille très fort pour faire briller les artistes. On participe à des foires musicales, on rencontre d'autres professionnels de l'industrie aussi qui rencontrent des obstacles, on partage nos idées, on trouve des belles opportunités aussi. Recevoir des prix, c'est toujours important aussi pour les artistes. Mais c'est important d'avoir une équipe qui est derrière toi pour eux, pour être content, avoir une image, pousser les projets.
Oui. Alors, il faut dire aux gens que ça demande un peu de sacrifice parce qu'on sait que vous n'êtes pas
oui,
millionnaire.
Beaucoup.
Vous n'allez pas devenir millionnaire, milliardaire en lançant un organisme pareil. Donc, il y a des défis à relever au niveau financier.
Ah oui, puis financier, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Mmh. Mais on travaille fort, on est content. On a le support de la ville de Terrebonne pour le projet de Richie, justement, qui a gagné hier. L'album Le Temps a été financé au niveau de la création et de la promotion cette année. Donc, c'est déjà un gros, gros avancement pour l'artiste. C'est des sous qu'on n'est pas obligé de sortir de nos poches. Puis, on est capable d'aller encore plus loin avec ces projets-là. Puis, on le voit juste avec les nominations à la disque. et le prix du Kilimanjaro Music Award hier soir, on voit que ça fonctionne. Donc, tu sais, des fois, les petits montants, on vous dit, ça pousse les artistes. Et les artistes, il faut qu'ils savent que les bourses sont disponibles aussi. Il faut juste savoir comment appliquer, puis savoir qu'elles existent.
En tout cas, c'est toute une vocation. On vous remercie. Nous sommes de tout cœur avec vous et je vous remercie du fond du cœur pour votre contribution, votre attachement à nos émissions, vos belles paroles, aussi les messages que vous avez écrits pour démontrer, pour décrire ce que c'est l'émission Popourri que je lirai la semaine prochaine. Alors, merci aussi à Rosmika, à Richie J. Combien d'artistes en tout rapidement vous avez?
On a 4 artistes, Richie J, Rosmika, que vous connaissez, Avon aussi, qui chante en français et en anglais, les Québécoises, et on a aussi Abuelo, qui est dans le rap créole.
Oui. Alors, nos compliments donc et bons voeux à Richie J, Rosmika et les autres, et votre belle équipe. Le temps passe, je dois rentrer en antenne. Vous êtes en route pour Toronto aujourd'hui ou demain?
On est sur notre départ, mais on savoure encore un peu Toronto, là.
Oui, alors, merci. Merci, Elisabeth Drapeau, qui est la fondatrice, directrice générale de tolalitomusic.com. Allez visiter le site web. On se reparle très bientôt. Que la force soit avec vous. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin notre édition spéciale à Sommet de la Francophonie en direct de nos studios. Oh, ça fait du bien. Capitaine, ça fait du bien. DJ Devera qui est ici, mille merci. Un immense merci à tous nos invités, professeurs directrices du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le CREFO, professeur Lepichon-Wortmann, Emmanuel Lepichon-Wortmann, mille merci. Fété, Mama Fété, Kim Biopi, auteur, directrice générale de Sophie Franc, partenaire, et Carole Fleuret, auteur, professeur titulaire, Université d'Ottawa, grand merci. Fabien Hébert, nouveau président de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, Elisabeth Drapeau, que nous venons d'entendre, fondatrice et directrice de Tolalito Music. Et je vous demande, madame, messieurs, d'aller voir sur notre site les rendez-vous de nos invités, de nos partenaires. La prochaine conférence de la Société d'Histoire de Toronto prévue pour mercredi 23 novembre à 19h en ligne. Le thème, les filles à marier, audace, héroïsme et scandale, 1634 à 1662. Vous retrouverez tous les liens sur notre site. Et aussi, il y a les lancements de nouveaux livres, recueils de poésie, des romans, des éditions prises de parole qui parrainent notre émission depuis belle lurette. Et aussi, à ne pas rater, madame, un grand merci à Ciné Franco. C'était bien, le film de clôture. Imelda, c'était bien de revoir Marceline, toute la belle équipe et aussi des amis et des nouveaux amis, qui sait. Alors, ici Eric Adel, je tiens ma révérence. Je vous dis merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission avec plein de surprises, mais aussi pour remercier tous les bénévoles, mais aussi tous les donateurs, donatrices qui ont contribué au succès de la collecte de fonds. Édition automnale, CUT 89,5 FM. Ciao, ciao. Je vous laisse maintenant avec l'artiste, justement, Richie J, qui était dans un concert. Ah ouais, c'était cet été, à Montréal. Allez, ciao, ciao, ciao.
Si il m'en est, non, si j'ai jamais. Manouye, Mounana.